On parle-tu un peu de souveraineté, mon Joe? T'es-tu prêt? Tu
fais-tu
parler
oui.
un peu du
J'en
pays?
J'en meurs d'envie.
Oui, notre prochain invité est candidat à la course à la chefferie du Parti québécois, mais il traîne un peu de la patte dans les sondages derrière Sylvain Gaudreau, qui semble actuellement être le favori des membres. Et notre prochain invité se présente comme étant celui, le candidat de la souveraineté et de la souveraineté rapide. Vous le connaissez, on va aller le retrouver. Il s'appelle Guy Nantel. Monsieur Nantel, bonjour!
Salut. Hey, là, je suis content. Ça va me préparer au débat des chefs de jaser avec deux fédéralistes en même temps.
Ah, ben oui. Ouais, mais je suis un ancien péquiste, moi. Moi, je suis un ancien péquiste. Pas Jonathan.
Ancien,
mais...
ça compte pas, Jérôme, en passant.
Ah, quand j'ai voté oui en 95.
Non, mais
on va te ramener.
Non, mais et moi, M. Nantais, dans la dernière année, entre autres, dans le débat entourant le projet de loi 21, j'ai même déjà dit que je songeais à une conversion, là.
Je sais tout ça en passant.
Vous êtes deux
candidats à revenir tranquillement. On va commencer par cette entrevue-là. Puis
ben,
s'il y a rien à faire, ben je vais dire, c'est deux cabochons, on les laisse tomber, mais je pense pas en arriver là.
Puis moi, des fois, sérieusement, le Canada de Trudeau, je me reconnais pas tout le temps, mais ça, c'est un autre débat. Hey, monsieur Nantel, est-ce que c'est un peu une dernière tentative pour essayer de devancer Sylvain Gaudreau que de ramener la souveraineté à l'avant-plan, puis une souveraineté rapide à part ça, là?
Oh, ben là, lâchez-moi, Sylvain. Écoutez, là, cette plateforme-là a été écrite depuis le mois de mars passé, alors ça n'a rien à voir avec mes adversaires. C'est tout à fait, d'une manière indépendante que j'ai écrit cette plateforme-là. Puis moi, j'ai fait de mon mieux en me disant, c'est quoi la meilleure façon pour moi, c'est quoi le meilleur intérêt du Québec. J'ai essayé de ratisser large le plus possible un projet de pays, un projet de nation, un projet de société. À partir de là, ben... ça, c'est les gens qui vont choisir si ça leur plaît ou pas.
Je comprends, M. Nantel, qu'une course à la chefferie, c'est l'occasion de se faire élire par les membres d'un parti. Vous n'êtes pas rendu à vous présenter devant la population, mais n'empêche, il y a l'occasion d'aller piquer la curiosité, intéresser la population, commencer à rebâtir, si on veut, une espèce de lien. Puis je me dis, qu'on soit pour ou contre la souveraineté, est-ce que vraiment c'est propice, le temps est propice à parler de souveraineté alors que l'économie est à terre, la pandémie, les questions de santé publique, nos aînés, j'ai l'impression que plus que jamais, les gens sont pas réceptifs à ça en ce moment.
Ben écoutez, vous me tendez une perche du tonnerre. Moi, je vous dirais, au contraire, plus ça va mal dans une société, plus c'est le temps de parler de souveraineté. Plus c'est le temps de parler de rapatriement des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques qu'on n'a pas. C'est pas quand ça va bien. Quand ça va bien, on se rend pas compte. C'est exactement pour cette raison-là que tous les peuples du monde ont la souveraineté et que nous ne l'avons pas. Et que ça va tellement bien ici, comme disait René Lévesque, c'est pas le goulag. Mais quand on se rend compte, en période de crise, par exemple, on contrôle pas le chemin Roxham, on veut fermer ça, puis le fédéral nous dit non. Puis quand François Legault demande à l'armée de rester un peu plus longtemps, puis qu'il se fait dire non, puis que là, il dit « Hey, c'est nos soldats, là. C'est nos gars puis nos filles, là. On les paye avec nos impôts. On n'a pas demandé la permission comme si on demandait aux États-Unis de venir nous aider. » Mais oui, c'est dans ce temps-là qu'il faut rapatrier nos pouvoirs.
Mais en même temps, le Québec a fait figure de cancre dans la gestion de la pandémie au Canada.
Absolument,
est-ce qu'on
ouais.
a des leçons à recevoir? T'sais, est-ce qu'on a des leçons à donner, en fait, au reste du Canada? T'sais, est-ce que ça aurait été beaucoup mieux? Est-ce qu'on aurait eu moins de morts dans les CHSLD si on avait été souverain? Je vois pas vraiment le lien.
Ben, si vous voyez pas le lien, posez pas la question. Ça n'a absolument rien à voir. Comment, en quoi la crise de la COVID crée une différence entre le fait qu'on est une province ou qu'on soit un pays indépendant? Ça n'a rien à voir. Ça a à voir, je vais vous dire, avec quoi ça a à voir? Ça a à voir avec le ministère des Finances, qui est absolument mal géré, puis ça, j'en parle énormément dans ma plateforme, parce que la plupart des morts qui sont arrivés, c'est dans les CHSLD, puis la raison pour laquelle les CHSLD ne fonctionnent pas, c'est qu'ils sont gérés par les CIS puis les CIUS. Et ça, c'est le gouvernement qui les contrôle directement. Ça n'existe pas nulle part ailleurs dans l'OCDE.
Mais quand on a un champ de compétences, je pense que c'est ça que Jonathan veut dire, c'est quand on a un champ de compétences comme la santé, on réussit l'échec, on réussit à pas bien le gérer.
Attends un peu, là. Hey, vous voulez parler du ministère de la Santé? Quand le ministère de la Santé a été créé, là, le deal qu'on avait avec le reste du Canada, c'était 50-50. On envoie nos impôts à moitié au fédéral. Ben, il y avait la moitié de l'argent qui servait au ministère de la Santé qui venait du fédéral. Aujourd'hui, là, on est à 23, puis bientôt, on va tomber en bas de 20. Fait qu'après ça, quand tout le système de santé le croupit, puis qu'on se fait dire par le fédéral, ah, ben si vous n'êtes pas capable de vous occuper de vos affaires, savez-vous, on pourrait nationaliser ça, puis que le Canada s'en occupe.
Ben, c'est parce qu'on a de la misère à le gérer. Je veux dire, moi, je ne crois pas que...
On a de la misère à le gérer parce qu'on se fait voler à chaque année de l'argent.
Ce que vous dites, c'est qu'il manque de l'argent, mais moi, j'ai de la misère à croire ça. Il y en a de l'argent dans le système de santé.
Non, mais c'est pas une question de croyance, là. Je vous dis pas que les ovnis existent, là. Je vous dis que c'est des chiffres qui existent, là. On paye maintenant 75% et plus de ce que ça coûte les Québécois, alors que ça devrait être 50-50. C'est pas une invention. Fait qu'après ça, quand il y a des gens qui disent « Nous autres, on gère ça comme des cabochons », ils font juste propager le jeu du fédéral.
Parce que vous ramenez ça à un manque d'argent. Moi, je suis pas capable de ramener ça à un manque de financement.
Non, mais attendez, je vais vous poser la question clairement. D'abord, est-ce que la gestion du système de santé, au-delà de son financement, est-ce qu'elle est optimale? On a vu que, par exemple, il n'y avait même pas de patron.
Absolument pas.
Il n'y avait pas de patron dans les CHSLD. Je veux dire,
mais
est-ce
non, mais
que la
c'est
crise
de ça
dans
que
les CHSLD,
je vous parle, puis vous m'avez coupé. Je vous l'explique, là. C'est ma plateforme. Fait que laissez-moi finir. Ce que je vous dis, c'est qu'il n'y en a pas de pouvoir décisionnel dans les CHSLD. C'est le ministère de la Santé, là, ça n'existe pas nulle part ailleurs dans les pays de l'OCDE, un ministère de la Santé qui dicte les lignes nationales à suivre, mais qui ensuite administre lui-même les hôpitaux, les CHSLD, les CLSC. C'est lui qui administre tout ça, c'est lui qui livre les soins. Ça n'existe pas. Quand on parle du modèle suédois, du modèle scandinave, comment ça fonctionne, c'est que le national fixe les objectifs à atteindre, mais que les services sont livrés par les communautés. Autrement dit, on dit quoi? On dit aux gens, c'est à vous autres de vous occuper de votre monde et ça donne toujours des bons résultats. Parce que quand c'est des gens qui s'occupent de leur monde, on les soigne comme du monde. Quand c'est un gouvernement qui fait du mur à mur en disant, voici comment vous allez fonctionner pour que ça nous coûte le moins cher possible, ben ça donne les résultats qu'on a là.
Mais en même temps,
alors
c'est
moi, c'est exactement ça que je change dans ma plateforme.
C'est pas à faute du fédéral. Si, par exemple, il y avait de la mobilité de main-d'œuvre entre les CHSLD pendant la pandémie, M. Nantel, il faut... Il y a une limite à mettre ça, c'est à la faute du financement.
Mais c'est parce
qu'il
y a une chose que vous ne semblez pas comprendre. Là,
non, on ne comprend rien, nous autres, les fédéralistes, c'est vrai, vous avez raison. On ne comprend rien à rien, juste les séparatistes qui comprennent, nous autres.
Bon, ben écoute, moi, si vous voulez mettre fin à l'entrevue, j'ai aucun problème.
Non, mais c'est parce que vous avez l'air de mauvaise humeur, M. Nantel. Moi,
je suis de mauvaise humeur parce que quand on donne des chiffres et que les gens s'obstinent parce qu'ils connaissent pas ces chiffres-là, vous avez le droit de pas les connaître, les chiffres. Vous avez le droit d'être surpris de ça. Mais quand vous me dites que c'est pas vrai, ben à ce moment-là, il n'y a plus moyen d'avoir une bonne conversation.
Même un gouvernement très nationaliste comme celui de la CAQ dit, regardez, on l'a échappé, il y avait de la mobilité de main-d'œuvre dans les CHSLD, ça n'a pas aidé à la propagation.
Mais oui, mais je viens de vous le dire, ça. Je viens de vous le dire qu'il faut changer ça. Alors, c'est quoi votre point? Je viens de vous le dire qu'il faut changer le système de santé. Ça n'a rien à voir avec le fédéralisme, ça, là. Je viens de vous dire que le Parti québécois va changer ça aussi, va décentraliser
le système de
santé.
C'est juste qu'on a de la misère à voir le lien avec le fédéral puis le fait que le ministère de la Santé est mal géré, bref.
Oui, c'est ça, là.
Je regarde votre plateforme, puis dans les deux premières années, il va y avoir beaucoup de pain sur la planche là pour l'indépendance. Là. La Constitution, la mise en place d'une présidence de l'État du Québec, un référendum dans la première moitié d'un premier mandat, je reviens un peu dans la même lignée de questionnement. Est-ce qu'on va avoir les moyens, par exemple, en 2022, de dépenser autant d'énergie sur ces débats-là alors qu'on est dans une crise dont on ne connaît pas encore l'ampleur au niveau économique, au niveau social et tout?
Ben, je suis obligé de revenir avec la première réponse que je vous ai donnée. C'est au contraire, quand on a des crises comme celle-là, qu'on règle le plus facilement les problèmes. Donc, oui, il va falloir mettre beaucoup de... Tu sais, il va falloir mettre l'épaule à la roue, mais forcément, de toute façon, même si c'est pas des souverainistes qui prenaient le pouvoir, mais vous dire qu'on a de l'ouvrage là, à accomplir, hein, en fonction de toute la reprise économique et tout ça. Mais chose certaine, ça va être plus facile de contrôler la reprise économique en contrôlant 100% de nos finances qu'en envoyant 50% de notre argent au Canada.
Parlez-nous d'éducation un peu, M. Nantel. Votre proposition d'étendre la loi 101 au niveau collégial, au DEP également, je ne ferai pas de cachette, moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est une belle opportunité d'étudier en anglais au collégial, primaire en français, secondaire en français. Pourquoi interdire aux francophones d'étudier en anglais au collégial?
Ben parce qu'à Montréal, entre autres, puis on l'a vu au Québec, dans une moindre mesure, ça s'en vient de plus en plus, mais à Montréal, on est rendu avec 70% des entreprises qui demandent de connaître l'anglais maintenant pour travailler dans leurs propres entreprises.
C'est normal.
Et ça vient pas de nulle part. En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que il y a en ce moment environ le deux tiers des gens qui étudient dans les cégeps anglais qui sont soit des francophones ou qui sont des allophones, donc des immigrants qui sont des enfants de la loi 101 qui étudient donc en français jusqu'au secondaire 5. Quand on arrive comme ça au cégep, premièrement, les gens qui vont étudier en anglais au cégep, c'est pas vrai qu'ils vont là pour apprendre l'anglais. Ils connaissent déjà la langue anglaise. Ensuite de ça, 90 % de ces jeunes-là qui finissent le cégep anglais vont dans les universités anglophones. Et forcément, quand ils rentrent au travail, ils transportent aussi cette culture-là anglophone.
C'est un avantage. Je veux dire, l'anglais sur les lieux de travail, il me semble, c'est important. Là.
C'est un avantage de connaître l'anglais dans la vie, oui. Mais on n'est pas obligé d'étudier en anglais, d'apprendre la philosophie anglaise, la littérature anglaise,
obligé,
autrement dit, de se former
de
l'esprit en
le
anglais.
Faire. Mais de pouvoir Comment? Le faire pour quelqu'un qui veut le faire, pourquoi pas? Si quelqu'un veut aller étudier à McGill, moi, je connais bien des gens qui ont étudié à McGill puis qui travaillent en français après, mais qui sont contents d'avoir étudié en anglais.
Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est quand même l'État qui finance le fonctionnement des cégeps puis des universités. Là, et qu'en ce moment, on est en train de financer notre propre assimilation à la culture anglaise, à la culture américanisée. Oh boy. Puis on considère que c'est tout à fait sain et normal qu'à partir du moment où quelqu'un atteint 17 ans, il y a étudié en anglais. Le cégep le plus important, où il y a le plus gros cégep au Québec, là, c'est Dawson. C'est un cégep anglophone. Mais je pense qu'il faut quand même se poser des questions à ce niveau-là.
Mais si on sortait la carotte au lieu du bâton, M. Nantel, j'émettais cette proposition-là un peu plus tôt dans l'émission. Par exemple, de dire, si tu es un étudiant en secondaire 5, tu veux aller au cégep en anglais, ça va te prendre, je sais pas, 80 % de moyenne globale en français, et là, tu auras le droit. Ça deviendrait même un incitatif à bien réussir, parce que moi, je m'attends à ce qu'en secondaire 5, les élèves maîtrisent bien le français. Je sais que c'est pas toujours le cas, là. Même au bac en enseignement, les tests de français, c'est souvent les résultats sont lamentables, mais pourquoi on n'irait pas qu'une carotte à la place, dire réussir, ayez des bonnes notes, démontrez-nous que vous avez une très, très bonne maîtrise du français. Rendu au cégep, vous pourrez essayer d'aller étudier dans une autre langue si vous le voyez comme étant un outil de plus.
Je voudrais pas que c'est une mauvaise idée, mais par contre, pour moi, c'est pas quelque chose qui est suffisant. Je vois pas pourquoi on financerait à outrance les universités puis les cégeps anglophones, alors qu'il y a à peine 5 % de la population qui est anglophone traditionnelle, historique au Québec.
Oui, mais c'est la langue des affaires, l'anglais. On pourra pas changer ça, M. Nantel. On va, mais même si le Québec devient souverain.
Mais la langue de travail, là, c'est le français ici.
Ben, ça dépend. Moi, je travaille en français, mais il faut que je lise l'anglais pour faire bien mon travail. Faut que je puisse
lire l'anglais. Non, mais je suis désolé, mais là, je vous parle de loi, là. La langue de travail, c'est le français.
Ouais, mais dans la vraie vie, là.
Mais il n'y a pas de vraie vie. Dans la vraie vie, quand tu vas en Espagne, la langue de travail, c'est l'espagnol. Puis en Italie, c'est l'italien. Puis ici, c'est le français.
En tout cas, je vais parler pour moi. Moi, j'ai besoin de l'anglais dans mon travail à tous les jours. Il faut que je lise des articles en anglais. Puis ça me prend un bon niveau de compréhension pour ça. Pour
pouvoir faire mon travail. Mais c'est pour ça qu'on l'enseigne, l'anglais, dans les écoles francophones.
Mais j'aimerais avoir encore un meilleur niveau de compréhension. Puis savez-vous quoi? Je trouve que les souverainistes, vous devriez être les premiers à souhaiter qu'il y ait le plus de Québécois bilingues. Pourquoi? Pour pouvoir être à armes égales avec l'anglais qui est partout autour de nous dans le monde, M. Nantel. Je comprends pas.
Mais je comprends pas votre point. En vertu de quoi vous dites ça? Comment vous pensez que les souverainistes sont contre le fait que les gens apprennent l'anglais? Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on dit.
Venez donc faire un tour à Québec bientôt, M. Nantel. J'aimerais ça qu'on aille jaser, prendre une bière ensemble. Aimeriez-vous ça? Moi, j'aimerais ça qu'on
discute avec vous, mais parce que Québec, j'essaie de comprendre votre logique.
Sortez de Montréal un peu, OK? Ici, à Québec, je vous donne l'exemple de notre
ville. Attention, sortez de Montréal. J'étais chez vous la semaine dernière. J'ai passé toutes mes vacances à Québec. Soit dit en passant, j'ai fait le tour du Québec 35 fois dans
ma vie.
Tant
mieux.
Sortez de Montréal.
Mais ici, à Québec, dans une ville unilingue francophone, là, des occasions pour des étudiants, par exemple, d'aller chercher une connaissance pointue de l'anglais, c'est le cégep Saint-Laurent qui a fait ça ici. C'est le collège Champlain, campus Saint-Laurent. Puis ça permet à des centaines d'étudiants francophones, à tous les ans, d'aller chercher un anglais un petit peu plus approfondi que Yes No Toaster, qui va leur permettre d'affronter le marché du travail avec une bonne connaissance de l'anglais, puis vous voulez interdire ça. Moi, c'est ça qui...
On n'interdit rien. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on enseigne l'anglais dans les écoles francophones. On l'enseigne dès le primaire, et quelqu'un qui veut se perfectionner n'a pas besoin d'aller étudier en anglais. À la limite, ça pourrait même être un cours de perfectionnement qui pourrait se faire dans un cours d'été ou des cours complémentaires. Tu peux étudier de façon plus intense dans un cours d'anglais dans des universités, des cégeps francophones, mais il faut que l'essentiel de ta vie s'articule autour du français au Québec. Ben,
Je pense qu'il y a une vaste majorité
de gens qui sont d'accord avec ça.
Je suis tanné d'être braqué contre les anglophones. Moi, c'est peut-être un peu ça qui m'a découragé du mouvement souverainiste. C'est cette espèce de guerre contre les Anglais. Je suis plus capable.
Mais c'est vous qui l'avez faite, la guerre. Il n'y a absolument personne qui vous a parlé de guerre.
OK, bon, ben, allons vers un autre point. Ça reste un peu dans le même sujet, dans la même thématique. Mais moi, il y a un point qui m'a particulièrement fait sourciller dans votre plateforme, et c'est cette idée d'instaurer un impôt supplémentaire de 2 ou 3 % pour des entreprises dont la marque de commerce utilise des mots autres que le français. Donc là, il y a la loi 101 qui est venue, entre autres, demander est-ce que dans l'affichage, il y ait une notion de français. Moi, je trouve que c'est bien correct, mais là, ça voudrait dire que, par exemple, le café Second Cup, s'il s'appelle pas le café deuxième tasse, aurait à payer 2 à 3 % de plus d'impôts. J'ai de la misère avec cette logique-là. En fait, je la comprends pas du tout.
Ben, vous savez, Staples, c'est appelé bureau en gros, puis Underrun, c'est appelé les marchés express. Puis il y en a des entreprises qui font cet effort-là de dire on arrive dans un endroit où ça se passe en français, puis que le visage culturel est francophone. Et on fait cet effort-là. Il n'y a aucune raison pourquoi les autres le feraient pas. Puis
donc,
s'ils
on
le
pas
font, ben il y a... Pardon?
On n'a pas besoin d'augmenter les impôts, ça veut dire, de ces compagnies-là, parce qu'elles sont capables de le faire elles-mêmes.
Là. Ben non, elles ne le font pas, justement. C'est une minorité d'entreprises qui le font.
Ben c'est quoi les entreprises?
Oui, je vous en donne deux, mais la plupart des entreprises ne le font pas.
Comme lesquelles, quand on parle vite comme ça? Là.
Ben, toutes les entreprises qu'on voit, les Best Buy de ce monde, c'est tout en anglais. Je veux dire, quand vous vous promenez, toutes les chaînes, particulièrement le commerce international, ça se passe en anglais. Et ce que je dis, c'est que c'est pas juste l'affichage, mais si on peut avoir un certain contrôle là-dessus. Sinon, ben, y a une partie de cet argent-là qui ira à la francisation des immigrants qui arrivent ici et qui ne parlent pas le français.
Ouais, mais au risque que ces entreprises-là décident de lever les feutres puis de dire, regardez, c'est trop compliqué puis qu'on perde des emplois.
Oh mon Dieu, vous connaissez mal les entreprises. Les entreprises sont toujours prêtes à faire de l'argent puis à se plier aux règles qu'on leur demande, mais il suffit juste de se respecter nous-mêmes dans la culture qu'on est. On est une culture en français puis on va leur demander ça.
La fin de la campagne, M. Nantel, avant qu'on se laisse, la stratégie, parce que bon, ça a été quand même plus difficile. On vous a pas vu beaucoup, j'ai trouvé, dans les derniers mois. Êtes-vous confiant d'arriver en tête, de rattraper les Paul Saint-Pierre Plamondon, les Sylvain Gaudreau?
Ben, je vous dirais que, tu sais, avec la COVID, ça a été quand même assez éprouvant pour tout le monde. Puis, je pense que les gens avaient vraiment la tête à d'autres choses que la politique en général, puis la campagne au PQ en particulier. Puis, d'un autre côté, moi, je me dis, bon, ben, quand les gens ont eu une couple de semaines de beau temps, puis d'été, je pense qu'ils méritaient aussi de prendre du temps avec leur famille autour du barbecue. Moi, j'ai décidé de commencer ça à partir de maintenant. Je pense que la vraie course est lancée depuis hier.
Hey, bonne fin de campagne, M. Nantel. Puis je vous le dis, je suis sérieux, quand vous passez à Québec, textez-nous. Soit qu'on ira prendre une petite bière, un café, on ira peut-être pas au Second Cup. Là, quoi que c'est les cafés Second Cup maintenant, c'est vrai.
On peut y aller au Starbucks ou au Second Cup, puis on ira au Best Buy faire un tour après.
Mais il y a un bon petit café ici, là, sur le chemin Sainte-Foy aussi, le 100% local. On pourrait aller prendre un petit café là aussi. Puis vous êtes le bienvenu, M. Nantel, la prochaine
fois. Avec grand plaisir. Merci de l'échange. Même si ça a été corsé pendant des bouts, ça a été un plaisir.
Merci, Guy Nantel. Salut.
OK, merci. À bientôt.
13h01. Sincèrement, je sais pas pourquoi il était de mauvaise humeur comme ça. On dirait qu'il s'est dit en partant, hey, moi te les ostiner, deux fédéralistes. Puis,
Ben, sais-tu quoi? Je vais y aller d'une théorie. Il y a le test de la réalité aussi de quand tu arrives en politique.
Oui.
Tu sais, je veux dire, Guy Nantel, là, il est habitué aux médias, il est habitué au Kodak, mais il est habitué aussi à parler à des gens conquis, faire des entrevues. Puis tu sais, les médias artistiques ont leur job, c'est pas leur job de confronter les artistes, tout ça, on s'entend, mais la dynamique est pas différente, puis est très différente, je veux dire. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, tu sais, auquel M. Nantel n'est pas habitué, là, de se faire challenger. Je veux dire, si le ton a monté rapidement dans l'entrevue, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est lui. Puis je pense que
c'est
peut-être
base
rendu compte.
Aussi, challenger, je veux dire, c'est des questions de base.
Je pense que ça en est peut-être rendu compte aussi, parce qu'à un moment donné, le ton a baissé, mais je regarde vos réactions à la tonne au 25-226. Oui. Sur le ton, vous êtes pas convaincu.
C'est parce que oui, il y a quelques personnes qui disent les gars, vous l'avez pas écouté, mais la grande, grande majorité des textos qu'on reçoit au 25-226, c'est voyons. Il est donc bien de mauvaise humeur ou carrément, je viens de décider de pas voter PQ ou. Mais tu sais, moi, je suis capable de m'auto-analyser des fois, Joe, ça a l'air de rien comme ça, mais tu sais, on fait des farces des fois, puis c'est vrai que j'ai voté oui en 95. C'est vrai que j'ai même milité pour le PQ à une certaine époque dans mon comté. Mais je pense qu'avec cette entrevue-là, je viens de comprendre une bonne partie des raisons pourquoi j'ai complètement décroché de ça. C'est la manie et c'est la culture de certains au PQ qui se braquent contre les anglophones. On dirait qu'ils sont incapables d'être fiers de leur pays, de leur nation. Ils sont incapables de se définir sans se définir contre l'anglais. Contre l'anglais au cégep, contre l'anglais d'un commerce. Puis, je sais pas, c'est peut-être Montréalais aussi, cette affaire-là. Eux autres, ils sont un petit peu plus confrontés à ça dans le day-to-day, au quotidien, je devrais dire. Tu sais, le fait de pas toujours pouvoir être servi en français chez l'abbé sur Sainte-Catherine, puis ce genre d'affaires-là. Mais moi, si tu veux me convaincre d'un projet de pays avec le Québec, parle-moi d'économie. Dis-moi qu'on est bon, qu'on est capable. Dis-moi pas qu'on est complexé envers les Anglais, puis qu'on est menacé par les anglophones. Dis-moi pas qu'on est pas assez bon, puis ça prend des lois, puis des impôts supplémentaires pour se protéger contre les méchants anglo. Moi, je te dis pas que j'ai le goût de voter oui.
Ouais.
Mais des fois, là, je t'avoue que le Canada de Justin Trudeau, là, Canada très dépensier, multiculturalisme complaisant, gne-gne. Je suis un peu tanné de ça. Je serais parlable des fois, moi.
Moi, je serais parlable, puis je l'ai dit souvent, puis je me souviens de m'être pogné avec Jean-François Lisée à l'époque quand il était chef du Parti québécois là-dessus. Un fédéraliste comme moi, vous allez réussir peut-être un jour à me convaincre d'embarquer dans le projet de pays le jour où vous allez baser votre argumentaire sur des réussites québécoises et non ces chicanes.
Les chicanes,
ces divisions,
c'est ça.
Sur la détestation de l'autre. Moi, là, je suis pas en amour avec les rocheuses, là. Tu sais, je me couche pas puis je me lève pas en faisant mon Haut-Canada le matin. Mais je trouve que la situation, en ce moment, elle est correcte. Tu sais, je vois pas en quoi ce serait mieux d'être le Québec. Prouvez-moi que, je sais pas moi, par l'exploitation de nos ressources, par le génie québécois, par l'accumulation de réussites, qu'on pourrait mener notre barque seule. Un jour, on m'a peut-être embarqué, sais-tu quoi? À l'Écossaise.
Ouais, ouais, ouais.
L'Écosse, ça a failli passer l'indépendance. Ouais, pourquoi? Ouais, ouais. Parce qu'ils se sont pris en main et un moment donné, ils se sont rendus compte que, savez-vous quoi, on pourrait peut-être être tout seul. Mais au Québec, c'est encore ça. C'est la détestation de l'autre. C'est les rengaines, puis les maudits anglais.
C'est ça, puis ils parlent pas trop anglais.
Nico.
Puis tu sais, il nous dit, il faut pas. On n'a pas besoin de ça. On l'enseigne l'anglais au secondaire. On n'a pas besoin de ça. Mais excuse, mais t'es qui, toi, là? Est-ce que je peux prendre la décision pour mon enfant, mon ado? Qui est le gouvernement pour te dire t'as pas besoin de ça? Ça, t'en as besoin. Ça marche pas. Ça peut pas être ça, Nico. Oui, excuse.
J'ai le goût de demander aux auditeurs, au 25-226,
oui.
Dans ce dont on a discuté avec M. Nantel, combien de sujets vous avez discuté avec votre famille, vos voisins, vos amis au cours des 6 derniers mois? Que vous, c'était une préoccupation de vous autres, de que les commerces, par exemple, soient plus taxés s'ils affichent en... Combien d'entre vous, ça vous a touché dans votre vie de tous les jours depuis 6 mois?
C'est Montréalais,
Même Montréalais, je suis pas sûr, Jérôme. Là, pendant la pandémie, combien de Québécois se sont dit, ici comme à Montréal... Si bon. Si on était un pays, d'après moi, on s'en sortirait mieux. Je dis, il n'y a pas personne qui a eu sa réflexion. Là.
Ben, ça en a que deux, trois.
Je pense pas non plus.
Quatre, peut-être. Ouais.
Mais sais-tu quoi, pour la bière, là, je pense pas que ça va arriver. Et je me suis pogné avec bien du monde, moi, dans les médias, là, avec qui j'irai prendre une bière demain matin. Je pense à, on en a parlé, entre autres, là, je pense à Gabriel Nadeau-Dubois, avec qui j'ai une bonne dynamique, même si on n'est pas d'accord pour ça. Mais me faire regarder de haut. Tu sais, dans le fond, dans les 7 premières minutes de l'entrevue, il nous a traité de cave.
On n'a rien compris.
À mot couvert, à peu près 3-4 fois.
C'est ça. Puis,
je sais pas, je pense pas que c'est comme ça qu'on convainc les gens.
Il était peut-être sur la défensive, puis tout ça, mais je veux répondre à un texto au 25-226. Merci d'être aussi nombreux à nous écrire là-dessus, là, sur le messagerie texte. Il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, « Hey, Landry, pourquoi t'haïs le français? En Russie, on parle russe, puis en Chine, on parle chinois. » T'as peu, là. Premièrement, je pense pas. Et je n'haïs pas le français. Puis je vous l'ai dit tantôt, je vais vous le redire. Tu sais, moi, j'ai une décision à prendre à un moment donné, puis j'y ai pensé. Est-ce que mon fils, je l'ai inscrit à l'école Vision? Faire ses journées en anglais ou... Non, je ne l'ai pas inscrit, là. Je me suis dit, non, je veux que mon fils étudie en français. Sa maîtrise du français, pour moi, c'est plus important pour l'instant qu'un bilinguisme complet. Vous avez pris ça où que j'haïs le français? Puis ça, c'est une autre affaire, là. Moi, je pense que les péquistes aussi, là, les séparatistes et les grands, grands défenseurs du français, là, au lieu de se braquer contre les Anglais, là, ils devraient peut-être parler de qualité du français aussi à un moment donné. Hein. Moi, ça me tient à cœur. Je suis loin d'avoir un français parfait. Mais moi, la baisse de qualité du français, tu sais, regardez vos enfants là, quand ils échangent avec leurs amis sur toutes les plateformes, là, que ce soit les jeux vidéo, les Messenger Kids de ce monde. On a d'ouvrage là-dessus, là. À mon avis, c'est plus urgent que s'occuper des méchants anglais puis de méchants Best Buy qui a un nom anglais.
Non, mais pire que ça, c'est qu'on devrait s'inspirer des anglos. Je me souviens d'une des chroniques que j'ai écrite qui a fait le plus réagir dans le Journal de Québec, Journal de Montréal.
S'inspirer des anglos.
Ça s'appelait « Les anglos sont meilleurs ».
Oh boy, t'as dû te faire
et
des
là,
amis.
Écoute, il y en a qui sont les bas côtés de ce monde, là, ils capotaient. Mais ce que je disais, c'est, regardez, là, au lieu de dire « les anglais, c'est des ci, c'est des ça », regardez comment ça va à l'école, les anglais. Regardez le taux de réussite. Regardez l'implication communautaire, le bénévolat, l'esprit de communauté.
Oui.
M'a dire, on n'a pas de leçon à donner aux Anglais au Québec.
Oh non, du tout.
Zéro leçon. Au contraire, on devrait essayer de voir qu'est-ce qu'ils font, eux, que nous, on n'est pas capable de faire. Pourquoi les taux de décrochage scolaire sont si différents selon que vous allez à l'école, pas dans un autre pays, là, ici, au Québec, dans la même province, en anglophone, en anglais versus en français? On peut-tu s'inspirer d'eux plutôt que de chercher à les chasser?
D'après moi, c'est pour ça que Guy Nantel, t'as de mauvaise humeur en nous parlant, d'après moi, Joe. Il serait peut-être ta chronique, peut-être. Oui, Nico?
Pensez deux secondes. Le nombre d'éditoriaux, de déchirages de chemises, juste Mathieu Bock-Côté en aurait pour à peu près 6 mois de chronique. Si on apprenait qu'à Vegas, le Cirque du Soleil paye une surtaxe parce qu'il a voulu garder le nom Cirque du Soleil.
Ouais, mais ça, en passant, sais-tu pourquoi ça arrive pas, ça? Pourquoi à Vegas, ils laissent le nom Cirque du Soleil? C'est qu'ils se sentent pas menacés par le français. Mais ici, on se sent menacé par l'anglais. Puis la preuve de ça, c'est qu'en Californie, il y a des lois contraignantes sur l'espagnol. Parce qu'il y a des Américains en Californie qui se sentent menacés par la prépondérance de plus en plus évidente de l'espagnol là-bas dans l'affichage, dans le langage. C'est quand tu te sens menacé que tu as ce réflexe-là de vouloir contrôler. Si tu te sens pas menacé par une autre langue, tu seras pas tenté de réglementer puis de légiférer. C'est très bon exemple. C'est quand t'es comme, tu te sens comme acculé au pied du mur, quand t'as peur de l'autre, que tu réglementes sur ce genre de choses-là. OK, 13h10, minutes, vous écoutez le FM 93 à Québec, on vient.